On a 162 pays qui ont ratifié le traité et puis 183 qui l'ont signé, donc ça fait déjà un traité assez universel. Mais on a une clause assez complexe dans ce traité-là lorsqu'il a été mis à la signature, c'est qu'il y a 44 pays qu'on appelle pays de l'annexe 2 qui doivent ratifier le traité avant son entrée en vigueur. Et dans ces 44 pays, il y a 8 qui restent, et c'est les 8 que nous sommes en train de démarcher pour avoir l'effectif nécessaire pour l'entrée en vigueur d'un traité qui est longtemps, 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 assez longtemps dû quand même.
Alors, justement, ces 8 pays ont des intérêts assez divers, des inquiétudes différentes. Quelles sont les stratégies ou quelle approche prenez-vous vis-à-vis de ces pays? Il y a par exemple les États-Unis ou le Pakistan qui doivent avoir demandé une approche différente de votre part.
En fait, si vous prenez les 8 pays, nous avons, comme vous l'avez dit, les États-Unis, nous avons la Chine, nous avons l'Inde et le Pakistan, nous avons Israël et l'Égypte, nous avons l'Iran et puis la Corée du Nord. Donc ça fait 8 pays qui ont leurs intérêts nationaux de sécurité et de défense qui leur sont à cœur. Mais nous, notre travail, c'est d'essayer de les rassurer par rapport à tout ce qui est non-prolifération. Et puis, en fait, dans un avenir beaucoup plus lointain, le désarmement, et pour que la sécurité et leur sécurité nationale fassent partie du travail que nous faisons. Et c'est ce travail qu'on est en train de faire en ce moment. On discute avec les États-Unis. Le président Obama a proposé d'amener ce traité à la ratification. Il n'a pas le nombre au niveau du Sénat, mais il a la volonté. Et nous travaillons pour essayer de rassurer les sénateurs qui sont encore sceptiques sur ce traité, que ce traité est important pour la sécurité des États-Unis aussi et leurs problèmes de sécurité nationale. Voilà ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on fait aussi avec Israël et c'est ce qu'on fait avec l'Égypte. En fait, dans la zone Moyen-Orient, on essaie de créer le cadre de confiance nécessaire à leur démarche envers la ratification de ce traité. Donc, il faut éduquer les masses, éduquer la société civile et apprendre et renforcer les capacités dans ces pays-là pour que, au niveau de la société civile et des ONG, les gens puissent voir en fait l'intérêt de ce traité et pour la paix et la sécurité internationale.
Alors justement, quel est l'intérêt de ce traité quand on sait que les États membres, ceux qui vont le ratifier et qui l'ont ratifié, s'engagent à dire stop au développement d'armes nucléaires qui éventuellement pourraient être perçues comme stop à une éventuelle défense des intérêts nationaux?
Justement, en fait, c'est ce dilemme que nous avons, la défense des intérêts nationaux et puis les intérêts internationaux de la communauté internationale, c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que j'ai dit, il faut rassurer les pays que leur sécurité nationale passe par la sécurité internationale et vice-versa. Et donc, c'est ça le grand problème au Moyen-Orient, parce que les pays voisins s'observent. Bon, la Chine et les États-Unis aussi s'observent. Ce que j'ai demandé aux différents ministres des Affaires étrangères que j'ai rencontrés, c'est évidemment de prendre un certain leadership. La Chine a montré un leadership économique que nous voyons tous aujourd'hui. Donc, il est question de prendre ce leadership politique-là pour essayer d'amener en fait les États-Unis et créer les conditions pour que le président Obama puisse avoir les voix nécessaires et pour amener ce traité à la ratification. Et puis bon, je crois que ça va engendrer en fait un cadre de confiance qui pourra nous aider à amener le restant des pays à ratifier. Donc dans ce cas, ce sera 6. Si on a les États-Unis et la Chine, qui sont les pays qu'on appelle les P5, c'est les 2 pays des P5 qui restent, dont la ratification n'est pas encore effective. Les 3 autres ont ratifié, donc la France, l'Angleterre et la Russie. Donc si les États-Unis et la Chine le font, je crois qu'ils vont créer déjà un cadre de confiance. Mais nous prenons tous les 8 pays à part égale. Nous pensons que toute ratification d'un des 8 pays va créer le cadre de confiance nécessaire vers la marche, vers l'entrée en vigueur du traité.
Revenons un peu sur l'actualité avec la crise en Ukraine. Certains ont dit que si l'Ukraine n'avait pas laissé tomber son arsenal, le pays ne se retrouverait pas dans la position plus vulnérable qui se retrouve aujourd'hui. Que dites-vous à ces personnes? Que répondez-vous?
Moi, je pense que bon, ça, c'est peut-être une manière un peu trop simpliste de voir les choses, parce qu'on est dans un monde qui est différent du monde qui était juste après la Deuxième Guerre mondiale. L'Ukraine a renoncé à son arsenal nucléaire parce que l'Ukraine s'est engagée dans la voie de la paix et la sécurité internationale. L'Ukraine n'était pas, après donc le démantèlement de l'Union soviétique, l'Ukraine a choisi la voie, et tout comme l'Afrique du Sud du reste, il faut quand même le reconnaître. Et ce n'est pas parce que on a l'arme nucléaire, qu'on contribue à la paix. Bon, les gens utilisent ça comme un cadre de dissuasion. Mais bon, la dissuasion, on en a, mais on est dans un monde tellement global aujourd'hui que les lois internationales sont les plus fortes en termes de dissuasion. Et c'est par ça, si on fait un cadre multilatéral assez puissant, assez fort, nous créons les conditions pour que les pays adhérents, et en fait, on espère que tous les pays du monde adhéreront aux lois internationales qui sont importantes pour la paix et la sécurité. Et lorsqu'ils adhèrent à ça, et quand on a des institutions fortes, ben on arrive à créer les conditions de paix et de sécurité.